Il est tout juste 18h au carillon d'Europe 1. Merci de votre écoute et de votre fidélité.
Il ne peut pas y avoir de manifestation de haine, il ne peut pas y avoir de manifestation antisémite en France. Et donc j'ai pris la décision de demander au préfet de police d'interdire cette manifestation.
Ne pas revivre le scénario violent de 2014. Gérald Darmanin interdit la manifestation pro-palestinienne prévue demain à Paris pour éviter les incidents.
Une situation qui divise et inquiète la classe politique française, qui craint une importation du conflit dans le pays. Les affrontements entre Palestiniens et Israéliens ont fait plus d'une centaine de morts.
Pronostic vital engagé pour le policier blessé à la tête lors d'une intervention à Rive-de-Gier. Il a reçu un projectile alors qu'il intervenait pour mettre fin au tapage nocturne provoqué par des jeunes.
Toujours aucune trace de Valentin Marcon, auteur présumé d'un double meurtre dans les Cévennes. Les gendarmes ne parviennent pas à établir un contact avec lui.
L'Amérique enlève le masque. Le président Biden autorise les Américains qui ont été entièrement vaccinés à le retirer en extérieur et en intérieur. Quand pourra-t-on faire la même chose en France ? Anne Le Gall dans ce journal.
Il y a 30 ans, une femme accédait à Matignon. Édith Cresson était nommée première ministre par François Mitterrand. Une nomination qui lui a valu son lot de remarques désobligeantes et sexistes.
Une finale de Coupe de France royale. Le PSG sera opposé à Monaco le 19 mai, mais ce sera sans la star parisienne Neymar. On vous explique pourquoi, Simon Rubin, à la fin de ce journal. Et puis la Bourse de Paris qui termine en forte hausse, plus 1,54% à 6385 points.
Quant à la météo, c'est une tenue de pluie qui s'impose. Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Wendy. En effet, les perturbations s'enchaînent demain et c'est une nouvelle journée pluvieuse qui nous attend sur quasiment toutes les régions et les températures de leur côté restent bien en dessous des normales de saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Surtout ne pas importer le conflit israélo-palestinien en France. C'est l'obsession du gouvernement et d'une partie de la classe politique. On le verra plus loin, les choses ne sont pas aussi simples. Mais en attendant, dans la bande de Gaza et dans certaines villes israéliennes, il flotte comme un parfum de guerre civile, alors qu'un troisième front menace de s'ouvrir en Cisjordanie.
Oui, avec un bilan humain qui s'alourdit un peu plus chaque jour. Plus de 120 morts côté palestinien, une dizaine côté israélien. Et Pierre Herbelot, entre l'État hébreu et le Hamas, ce soir, l'escalade continue, Pierre.
Oui, et ce n'est pas encore fini. Déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l'issue d'un conseil de défense cet après-midi. Il paye et continueront de payer chèrement, poursuit-il. Depuis ce matin, au moins 4 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie dans des affrontements avec l'armée israélienne en marge de manifestations. Mais c'est bien la bande de Gaza qui paye le plus lourd tribut. 119 morts et plus de 800 blessés en une semaine. Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie qui se sont intensifiés. Réponse aux plus de 1800 roquettes tirées par le Hamas vers Israël depuis lundi. La plupart interceptées par le bouclier antimissile Dôme de Fer. C'est dans ce contexte d'extrême tension que Tsahal déploie chars et blindés aux portes de Gaza. À deux jours d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, Emmanuel Macron a appelé son homologue Benjamin Netanyahou cet après-midi. Tout en reconnaissant le droit d'Israël à se défendre, le président français a insisté sur l'urgence d'un retour à la paix.
Pierre Herbulot, un conflit qui empoisonne la classe politique française divisée sur le sujet. Faut-il manifester sa solidarité et envers qui ? Le gouvernement, lui, ne veut pas revivre le précédent de 2014 lorsqu'une manifestation pro-palestinienne avait dégénéré en émeute urbaine. Il vient d'interdire la marche prévue demain à Paris. Le ministre de l'Intérieur s'en est expliqué.
Il ne peut pas y avoir de manifestation de haine. Il ne peut pas y avoir de manifestation antisémite en France. Et donc j'ai pris la décision de demander au préfet de police d'interdire cette manifestation, vu les renseignements que nous avions, qui ne pouvaient pas se passer dans de bonnes conditions. Le conflit israélo-palestinien est un conflit évidemment extrêmement touchant pour la plupart de nos compatriotes. Nous avons tous une opinion, des sentiments face à ces images ignobles qui nous viennent d'Israël et de Palestine, mais il ne doit pas s'exporter sur le territoire national. Et je veux dire que nous ne devons pas revivre les scènes ignobles de 2014 dans les rues de Paris.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur l'interdiction de cette manifestation. Une décision sage, salue la maire de Paris Anne Hidalgo. Une provocation, au contraire, juge le député La France Insoumise, Éric Coquerel. Quant aux organisateurs de cette manifestation, ils ont saisi le tribunal administratif en référé pour obtenir son maintien. Décision qui sera rendue demain matin, Christophe.
À Rive-de-Gier, l'état du policier blessé à la tête lors d'une intervention inquiète toujours. Il a été hospitalisé après avoir reçu un projectile et son pronostic vital reste engagé. Une enquête a été ouverte, Guillaume Bier.
Oui, au départ, c'est une banale affaire de tapage nocturne. Une quinzaine de personnes alcoolisées qui font du bruit en pleine rue à minuit alors que le couvre-feu est toujours en vigueur. Des riverains appellent la police. Un équipage de 3 fonctionnaires tente de ramener le calme, mais la tension monte très vite et sous une pluie de projectiles, 2 policiers se réfugient dans leur voiture tandis que le troisième tombe inanimé, touché à la tête. Au fil des heures, son état de santé s'est aggravé. Il a été opéré, mais il est toujours dans le coma. C'est un policier et père de famille de 50 ans, très expérimenté, qui a fait toute sa carrière à Rive-de-Gier, qui a déjà frôlé la mort en intervention. C'était il y a 10 ans. Il s'était fait tirer dessus et avait eu la vie sauve grâce à son gilet pare-balles. Cette fois, son pronostic vital est engagé. L'enquête est menée par la Sûreté départementale. Analyse en cours sur les projectiles retrouvés sur place. Visionnage des bandes de vidéosurveillance du quartier. Le procureur adjoint a également lancé un appel à témoins à quiconque permettrait d'aider à retrouver les agresseurs, y compris avec la possibilité de témoigner anonymement.
Guillaume Bier, merci, chef du service police-justice d'Europe 1. Dans les Cévennes, maintenant, la traque dure depuis maintenant 4 jours et toujours aucune trace de Valentin Marcon.
350 gendarmes sont mobilisés sur une zone de recherche d'une quinzaine de kilomètres carrés au moins. Le secteur très boisé et escarpé rend les opérations difficiles. Celui qui est soupçonné de double meurtre reste introuvable. Stéphane Frangy, le problème, c'est qu'il n'y a toujours aucune piste sérieuse, aucun contact établi.
En effet, car tout d'abord, Valentin Marcon a l'avantage du terrain et de ses multiples cachettes qu'il connaît bien, mais le temps et l'usure de la traque jouent très clairement contre lui, estime le général 2 étoiles Jean-Valéry Letterman.
Si le fugitif est toujours dans le secteur, ce que nous pensons, il doit ressentir toute cette pression autour de lui, les chiens, les hélicoptères, les gendarmes postés partout. Quel est l'effet sur son psychisme, je n'en sais rien, mais ça doit quand même être marquant ou peser pour lui. Voilà. On ne sait jamais combien de temps va durer ce genre de poursuite de fugitif. On sait que ça peut durer et on est prêt à ce que ça dure.
Voilà, mais s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas surpris ici par la tournure incertaine que prend cette chasse à l'homme, c'est bien Claude Legrand, le président de l'association locale de chasse.
Ça va être très dur. C'est un loup solitaire.
Il n'a pas été pris à la gendarmerie ou dans l'armée. Maintenant, il veut jouer à Rambo. Il veut faire voir qu'ils ont loupé un bon élément. Il a mis nos vies, tout le monde en danger, comme un détraqué, mais qui peut être très dangereux. Parce qu'il tire très bien, malheureusement. J'ai vu ses cibles en passant lors des battues au Sanguier. Les impacts étaient bien placés. Il ne ratait pas ses cibles.
Et le village du Plantier qui reste sous cloche, sous très haute protection militaire. Et ce chasseur nous confirme que l'ambiance sur place est lourde.
Stéphane Frangy, envoyé spécial d'Europe 1 dans le Gard.
Europe 1, Wendy Bouchard.
L'info revient dans un instant sur Europe 1. Nous partirons aux États-Unis. Les Américains enlèvent le masque et la France. Christophe attend son heure.
Et puis Neymar est en pleine forme, mais il ne jouera pas la finale de la Coupe de France. On vous dit pourquoi.
Et Christophe Lamarre pour le journal, il est 18h09. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Aux États-Unis, c'est le président Joe Biden qui a créé la sensation cette nuit dans les jardins de la Maison-Blanche. Il a annoncé la fin du masque obligatoire.
Oui, les Américains qui sont entièrement vaccinés sont dispensés de masques à l'extérieur comme à l'intérieur. Il reste quand même recommandé dans les transports, les gares et les aéroports. Le masque, ce symbole de l'épidémie que l'on aimerait bien retirer aussi en France, Anne Le Gall, quand viendra notre tour ?
Alors effectivement, la question se pose parce que pour l'instant, chez nous, le Haut Conseil de la Santé publique recommande toujours le port du masque même après 2 injections, à l'exception des rencontres dans la sphère privée entre personnes entièrement vaccinées. Parce qu'il faut rappeler que si les vaccins empêchent les formes graves de Covid, ils ne bloquent pas totalement les transmissions. Et pour que les vaccinés puissent abandonner le masque, explique le professeur Philippe Amouyel, médecin de santé publique au CHU de Lille, il faut donc aussi un contexte sanitaire favorable.
Cela suppose, comme aux États-Unis ou en Israël, deux conditions essentielles. La première, c'est une population française vaccinée suffisamment importante et la deuxième, un taux de circulation lui aussi suffisamment bas. Il faudrait qu'on puisse atteindre aux alentours de 5000 contaminations quotidiennes pour pouvoir commencer à penser à libérer significativement la population de ces contraintes de masques.
Nous sommes donc encore loin de réunir ces critères car nous venons tout juste de passer sous la barre des 20 000 contaminations quotidiennes. Mais si le déconfinement se passe bien sans aucun rebond épidémique et que le gouvernement tient ses objectifs de campagne vaccinale, on pourrait théoriquement réunir ces conditions et notamment plus de 60% de la population vaccinée à partir de début août.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. On va vous donner quelques chiffres. En l'espèce, le gouvernement devrait atteindre son objectif de 20 millions de primo-vaccinés ce soir ou demain. Nous en étions à 19 300 000 hier soir et sur la plateforme Doctolib, que vous consultez peut-être régulièrement, près de 700 000 rendez-vous de première injection étaient pris pour aujourd'hui et demain. Ça progresse.
Voilà, confirmation aussi que l'épidémie poursuit son lent recul. Anne en parlait tout à l'heure, 16 000 729 nouveaux cas en moyenne chaque jour, c'est 20%. 1% de moins par rapport à la semaine dernière. Recul aussi dans les services de soins critiques des hôpitaux avec moins de 4500 malades.
Il est 18h11 sur Europe 1. Nous avons fêté récemment les 40 ans de l'accession au pouvoir de François Mitterrand et des socialistes. Et on fêtera un autre anniversaire demain. C'est l'arrivée, Christophe Lamarre, d'une femme au poste de Premier ministre.
C'était il y a 30 ans, le 15 mai 1991. Edith Cresson est nommée Premier ministre, on devrait plutôt dire Première ministre, seule et unique femme à accéder à Matignon dans l'histoire de la Ve République. Et ce fut tout sauf facile. Elle était l'invitée de Mathieu Béliard ce matin sur Europe 1.
J'ai été tout de suite extrêmement attaquée, naturellement par les médias et aussi par les hommes politiques de droite et pas seulement de droite. Les gens qui ne me connaissaient pas, c'est-à-dire l'image qu'ils avaient de moi, c'était une image épouvantable qui était véhiculée par les médias. Les commentaires, c'était « elle porte des boucles d'oreilles, pourquoi ? Elle a un bracelet, comment ça se fait ?» regardez comment elle marche. Ils se mettaient à genoux devant ma voiture pour filmer mes jambes, vous vous rendez compte? Et ils avaient même déclaré que j'avais un de mes collants qui était filé. Non, c'est inimaginable l'attitude de ces gens-là. Inimaginable.
C'est propre à la France, vraiment?
Totalement propre à la France. Totalement et uniquement, parce que j'ai quand même circulé beaucoup. Et puis j'ai vu comment ça se passe ailleurs. Jamais il n'y a des choses de ce genre ailleurs. Jamais.
Oui, les aveux incroyables. 30 ans après, d'Edith Cresson, ancienne première ministre, la seule de l'histoire de la Ve République, qui était donc ce matin l'invitée de Mathieu Béliard sur Europe 1. Le football, eh bien, c'est une finale de rêve. PSG contre Monaco. Les deux clubs vont se disputer la Coupe de France et on a pris date pour mercredi.
Oui, et le deuxième du championnat contre le troisième, ça fait une belle affiche. Mais il va quand même manquer un ingrédient, Wendy, pour relever le plat. Le Brésilien Neymar est suspendu et il y a une raison à cela, Simon Rubin.
Oui, alors c'est vrai que de prime abord, ça peut paraître un peu bizarre. Neymar n'a pas été expulsé contre Montpellier, il a simplement reçu un carton jaune et c'est tout. Mais Neymar avait avant cela été expulsé contre Lille en championnat. Et le fait en fait d'être à nouveau sanctionné en Coupe de France a fait sauter un sursis dont il bénéficiait. Et cela a donc alourdi sa sanction. Le voilà donc exclu pour la finale. Alors, c'est un peu étrange, un joueur suspendu pour la finale sans avoir pris de carton rouge dans cette même compétition. D'ailleurs, l'intéressé lui-même a réagi sur son compte Instagram. « J'aimerais être dans la tête de celui qui a fait le règlement des cartons en France. » Il mérite des applaudissements. Quelle confusion, souligne-t-il, non sans une certaine ironie, vous l'aurez noté. Alors attention, l'histoire n'est peut-être pas finie. Le PSG peut demander une conciliation auprès du CNOSF, le comité olympique. Une démarche qui pourrait permettre de suspendre la sanction et donc offrirait à Neymar la possibilité de jouer cette finale.
Voilà, le suspense reste entier. Simon Rubin du service des sports d'Europe.
C'était le journal de Christophe Lamarre. On vous retrouve à 18h30 pour l'essentiel de l'info, Christophe. Merci. Un petit point météo, Anissa, bien. Sans grande surprise, vous l'aviez prévu annoncer, c'est une nouvelle journée pluvieuse demain.
Oui, avec une nouvelle perturbation, Wendy, qui arrive demain et qui va traverser tout le pays. Alors nous aurons demain matin, des Pyrénées-Atlantiques jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne, la région parisienne et même le Grand Est, et bien dans toutes ces régions, nous aurons des pluies dès le début de la journée. Sur le quart nord-ouest, à l'arrière de la perturbation, sur la Bretagne, la Normandie et le centre-Val de Loire, là le temps reste sec. Un ciel partagé entre nuages et quelques toutes petites averses, mais enfin ça reste tout de même plus agréable que sur la moitié sud. Et puis en Provence, Alpes-Côte d'Azur, à l'avant de la perturbation, là au bord de la Méditerranée, nous avons un temps sec avec du soleil, mais quand même des gros nuages assez épais qui viendront assez souvent masquer le soleil. Et puis attention, le vent continue de souffler fort sur la Corse. Alors dans l'après-midi, le temps ne va pas franchement évoluer. Sur la moitié sud, on a toujours pas mal de pluie entre la Gironde et les Alpes. Et puis sur la moitié nord, les orages arrivent dans l'après-midi, effectivement, sur l'Île-de-France, le Grand Est ou encore la Bretagne. Donc c'est un temps très automnal pour ce 15 mai demain.
Ouais, très frisqué.
Très frisqué. Les températures, elles sont stationnaires. 4 à 13 degrés demain matin. Dans l'après-midi, c'est comme aujourd'hui. 12 pour Aurillac, 15 à Lyon et Bordeaux, 17 pour Paris et Rennes, 19 à Biarritz et 22 la maximale pour Perpignan.
À tout à l'heure, Anissa. Merci.
À tout à l'heure.